que l'acte de procréation est un acte de liberté.
They wanted to silence one Malala, but instead, now thousands and hundreds and millions of Malalas are speaking and they're fighting for their rights.
Bienvenue sur Charbons Ardents, votre moment féministe de culture, de mythes et de sociologie pour tous. Pendant une heure, Cha et Mareuil vous parlent tous les mois de sujets qui fâchent. En partant d'un témoignage sur les violences quotidiennes, on décryptera ensemble des thématiques de société avec à la clé des outils inclusifs pour mieux comprendre le militantisme d'aujourd'hui. Charbons Ardents, c'est tous les deuxièmes jeudis du mois sur Prune 92 FM et en co-diffusion un mardi sur 4 à 20h sur Radio Campus Paris. Et ça commence maintenant.
Charbons Ardents.
Salut Mareuil.
Salut Cha.
Et bonne rentrée à tous. Nous, on est grave ravis de vous retrouver sur les ondes de Nantes à Paris désormais.
Next stop, Minus. Conquérir le monde.
Attends, c'est moi Minus dans cette histoire ?
T'inquiète pas pour ça, meuf, on en reparle plus tard. Enchaîne, s'il te plaît.
Dis, Cortex, tu veux faire quoi cette nuit ?
La même chose que toutes les nuits, Minus. Tenter de conquérir le monde.
Dans cette rubrique de Charbons Ardents sur Prune et Radio Campus Paris, on vous fait mal à la tête avec des livres, des mots et des idées. Mais c'est pour votre bien, promis.
Juré.
Craché.
Anger is a very normal response to having your human rights compromised. We have to stop using it to delegitimize people.
En ce mois d'octobre rose qui nous incite à prendre soin de nous, on a décidé de parler de la notion essentielle qu'est le care. Terme que vous nous avez entendu rabâcher en vous disant « Putain, elles nous gavent avec leur jargon franglish là !» Sans plus attendre, aujourd'hui, un petit topo.
Vous en rêviez ? Charbons Ardents l'a fait. Pour ce faire, on va s'appuyer sur la théoricienne Carole Gilligan, autrice d'un ouvrage paru pour la première fois en 1982 dans l'indifférence générale en France, bien sûr, mais révolutionnaire aux USA, une voix différente.
On s'aidera aussi des travaux essentiels de Pascal Molinier, professeur de psychologie sociale à Paris 13, et de ceux de Patricia Paperman, professeur de sciences politiques spécialisée en éthique du CARE. Enfin, nous ferons référence à l'enquête de la sociologue Marlène Schiappa, Marlène Binquet, bah oui, je me disais quand même, dont elle rend compte dans son livre intitulé « Encaisser, enquête en immersion dans la grande distribution ».
C'est parti mon cli-cli. Aujourd'hui, on va partir d'une évidence telle que la statuée, c'est du gaspillage de salive. Nous ne sommes pas surhumains surhumaines. Nous sommes faillibles, dépendantes de l'état de nos corps, corps qui grandissent, corps qui vieillissent, sont blessés ou malades, corps qui doivent dormir sous un toit et dans l'hygiène, manger et produire des déchets dans ce processus. Ces étapes sont vitales, incontournables et nécessaires, et pourtant...
Les métiers qui gèrent le bien-être des bébés, celui des personnes âgées que personne ne veut voir, le ramassage des ordures que personne ne veut voir... Le sang, la merde, le vomi que personne ne veut voir. Ces métiers-là n'ont pas de respect, de reconnaissance ni de pouvoir financier.
Ces métiers-là ne suscitent pas des « oh » et des « ah » d'admiration en société. Ces métiers-là sont des guerrières par défaut, sont réservés à des gens qui n'ont souvent pas le choix, qui n'ont pas pu faire d'études mais qui assurent au jour le jour et dans l'indifférence générale notre bien-être.
Nous en arrivons même à payer et respecter plus celles et ceux qui géreront nos cadavres pour leur rendre une dignité illusoire et éphémère d'apparence, avant la disparition totale, que celles et ceux qui s'occupent de nos corps encore vivants. Pour nous rassurer, pour entrer dans la mort comme des statues invincibles.
Même les cadavres, en fait, ils ont des espaces dédiés où se reposer. Ils prennent de l'espace vital, là où le gouvernement engage et paye des gens pour concevoir des bancs et des barrières spécialement pensées pour empêcher les SDF de s'allonger. Finalement, un cadavre mort et pourrissant a droit à plus de dignité qu'un corps vivant dans notre société.
C'est parce que nous refusons ces réalités, parce que nous vivons dans l'illusion de la toute-puissance, que nous refusons d'être humains, que nous créons des hiérarchies entre les sortes d'humains, les forts et les faibles, les propres et les sales, les vieux et les jeunes, hiérarchies qui reflètent encore et toujours le statut financier.
Et c'est pour toutes ces raisons aberrantes que nous refusons de payer correctement et de valoriser des professions qui prennent soin des personnes vulnérables, les enfants, les malades, les personnes âgées. En faisant comme ça, nous agissons comme les hordes animales qui laissent mourir derrière les individus qui ralentiraient la meute. Et dans la même logique de nous croire toujours au-dessus, nous ne prenons pas soin de l'environnement qui prend à son tour soin de nous. Nous ne prenons pas soin de nous.
Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux.
Le militantisme, c'est bien sympa, mais vous autres, les féministes, on comprend rien quand vous jactez avec vos mots compliqués, là.
Bon, t'as bien raison, Jackie, bordel. Sauf que nous, bah, on en a marre d'expliquer tout le temps, pas vrai, les gentes? Alors, pour celles qui ne veulent plus gaspiller leur salive, il y a le dico militant Made in Charbons Ardents, à balancer en soirée aux gencissements et, si possible, bien fort et dans la gueule.
Au commencement de la pensée et de la civilisation, les mecs se réunirent entre eux et décidèrent que la justice et la morale devraient devenir des casse-têtes pour les siècles des siècles.
Amen !
Ils réfléchirent pendant des années, se prirent la tête, s'arrachirent leurs rares cheveux en se demandant « Mais comment définir une justice universelle qui s'applique à toutes les situations ?» pendant que leurs bonnes et leurs femmes et leurs bonnes femmes faisaient toute la gestion du quotidien pragmatique because ils étaient trop intelligents à vue pour gérer les listes de courses.
Ces grands penseurs se posaient des grandes questions. Qui vole un œuf, vole-t-il un bœuf? Qui a volé l'orange du Guy Marchand et pourquoi? Si ma famille crève de faim, puis-je voler une pomme pour les nourrir? Ou dois-je les regarder agoniser au nom de la loi?
Au nom de la loi.
De grands dilemmes éthiques auxquels un psychologue du XXe siècle a proposé une réponse en élaborant une théorie sur le développement moral des individus de l'enfance à l'âge adulte.
Alors, on n'a malheureusement pas le temps d'entrer dans les détails parce que c'est technique et ça vous bourrerait le chou. Mais promis, ça va quand même vous bourrer le chou. Et on va essayer de résumer ça rapidos. Si vous vous accrochez à votre culotte, on vous balance plus tard du Johnny et du Aznavour.
Mais c'est censé donner envie, ça, Marie ?
C'est pas style. Selon ce psychologue qui s'appelle Lawrence Kohlberg, quand on est gosse, le premier palier de moralité, c'est qu'on fait les choses morales pas parce qu'on est foncièrement bon, mais parce qu'on espère une récompense ou éviter un châtiment. Tout le monde le sait. L'idée, selon lui, ce serait de se développer ensuite jusqu'à un stade où on sort suffisamment des émotions, bien une logique de mec, de l'ego et des situations perso pour en arriver à une sorte d'objectivité universelle. On passe d'abord par le stade de respecter la loi avant toute chose.
C'est pas bien de voler la pomme parce que voler, c'est illégal.
Pour en arriver finalement au stade où on peut parler en termes de morale universelle.
On ne doit pas voler la pomme parce que voler, c'est universellement mal.
Ou autre réponse possible.
Il faut voler la pomme parce que la vie compte avant tout. Ah oui, bah on n'est pas sorti avec tout ça. Bon, grosso merdo, voilà la théorie. Carol Gilligan, qui bossait avec lui, remarque rapidement qu'il y a une différence de réaction aux dilemmes éthiques que propose Kohlberg dans ses expériences entre les sujets identifiés comme masculins et ceux identifiés comme féminins. La construction des genres pousserait les femmes à davantage prendre en compte le contexte, les éléments individuels et les relations à préserver entre les gens concernés. En gros, plutôt qu'une moralité centrée sur de la théorie désincarnée et qui rechercherait avant tout l'impartialité, elle chercherait à préserver les individus et les relations humaines.
Alors c'est à partir de ces constats qu'elle en vient à formuler les bases d'une éthique du care, qui serait, et là on la cite, un mode de pensée plus contextuel et narratif que formel et abstrait. Donc en gros, un mode de pensée qui serait plus basé sur une action, une mise en pratique, un travail constant au service de l'autre, et surtout la nécessité pour les humains d'entretenir des relations de solidarité, des relations d'empathie, plutôt qu'une justice immanente qui finalement en fait ne tient pas compte des particularités des situations et des personnes. Donc ça c'est une morale de la sollicitude, c'est une morale qui est plutôt dans le souci des autres, une morale qui est dans le soin, là où on privilégie aujourd'hui une justice qui tranche, une justice qui punit et qui donne raison à l'un et tort à l'autre.
Dès lors, la justice et la morale deviendraient un travail concret et sensible, prenant en compte les réalités de chacun et chacune. La nécessité d'une telle morale se lit par exemple dans le fait que nos lois n'évoluent pas assez vite compte tenu des dynamiques sociales et des changements constants. Que de ce fait, les jugements de justice sont rarement adaptés aux réalités que traversent les individus qui la saisissent ou qui lui font face, qu'on renvoie chez eux des migrants et des migrantes malgré ce qu'elles traversent dans leur pays, et qu'on laisse des gens riches, qui n'ont jamais été sur le terrain, décider de l'orientation de nos lois. Qu'on crée une machine sourde et aveugle, sous prétexte que la sensibilité, étiquetée comme « féminine », n'aurait rien à faire dans la détermination de nos principes universels.
Mais le jour où vous serez jugé, voudrez-vous avoir affaire à un texte édicté avant votre naissance par quelqu'un qui ne vous ressemble pas ? ou à une personne qui voudra être à l'écoute de votre situation particulière et spécifique pour vous aider à trouver des solutions adaptées. Voudrez-vous être traité sur le modèle des relations patronales ou sur celle des relations parentales idéales ? Là où les penseurs ont conçu la morale et la justice comme la mise en œuvre des droits et des règles, l'éthique du care propose de mettre au premier plan le bien-être d'autrui. Le développement moral se centre sur l'attention aux responsabilités et à la nature des rapports humains. I'm so fucking high, I really need you now. Girl, I'm about to die, the roof is fucking tight. When I put it on, there's no turning back. One step and I'm gone, baby, please come back. I don't wanna die, girl, just care about me. I would kill myself if you don't care about me. Sit right next to me, girl, scream out my name. I wanna hear you weep and cry my fucking name. I will push you further, I'ma pass out soon. Wanna live together, don't wanna be alone. I don't wanna die, but I swear I'll try. I'll get you running back just to save my life.
Alors, puisqu'on parle de mots, pourquoi on le garde en anglais ? Pourquoi on parle de care et pas de sollicitude ? On va citer ici Fabienne Brugère qui présente le livre de Gilligan. Dès lors que l'on envisage le care comme travail, nous préférons ne pas traduire care par sollicitude, terme sous lequel l'idée a fait ses premières apparitions en France. Cela ne veut pas dire que la sollicitude n'est pas une dimension importante de cette perspective. Dans sollicitude, il est certes possible de voir la dimension relationnelle d'une sensibilité qui identifie comme telle les sollicitations et leur attribue une égale considération. Mais les connotations associées aux usages de ce terme français, de même que le soin, plus neutre à première vue, risquent de rabattre l'idée du care, soit sur une espèce de sentimentalisme affairé, soit sur une version médicalisée et inégalitaire de l'attention.
Car cette éthique pratique, cette éthique de terrain, elle n'est pas réservée finalement qu'aux malades, elle n'est pas réservée aux enfants, aux handicapés, aux personnes démunies, ou âgées ou dépendantes. Elle n'est pas réservée qu'aux gens qui, entre guillemets, ne vont pas bien. Finalement, le care, ça commence par vous. Vous méritez le care, vous méritez de le cultiver, vous méritez d'en faire bénéficier vous-même et les autres, sans attendre d'être exclu par la société, parce que vous ne serez plus un rouage valide et efficace qui n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui pour travailler et être rentable.
Alors, puisqu'on parle de soins et qu'on a amorcé le sujet sur Octobre Rose, on voudrait commencer par noter que la manière de faire de la prévention contre le cancer du sein est ici très représentative de la question qu'on traite aujourd'hui. Je m'explique. Depuis les tout débuts de la sensibilisation à cette cause, on fait des femmes les responsables de leur propre santé à coups de slogans comme « Mes seins j'y tiens, j'en prends soin ».
Alors que bon, c'est plus à notre vie qu'on tient qu'à nos seins. Hein.
Ou « Prenez rendez-vous avec vos seins », là où celui contre le cancer de la prostate, c'est « La moustache, c'est royal ».
Imagine prendre rendez-vous avec une prostate. Quel est le fuck ? Alors rien que là, ce qu'on voit se jouer, c'est la responsabilisation chez les femmes de leur propre santé. À elles de gérer pour s'éviter ce genre de cancer très répandu en se palpant les miches. En revanche, les hommes, étant les bébés qu'on connaît, on leur dédie le Movember, les coups de marketing sur la moustache.
Bon, réservé aux hommes, hein, faudra pas arrêter de vous épiler la lèvre supérieure en soutien avec leur prostate, hein, ils le prendraient mal.
Non, on arrête de l'épiler pour d'autres raisons. Mais on les enjoint pas à prendre soin d'eux, c'est pas un truc, c'est d'autres gens doivent prendre soin d'eux. Alors on a déjà parlé tout ça dans notre émission sur les violences médicales, les vrais savent.
J'ai passé ma vie à traîner dehors, être posté en bas. J'suis dans le sale, raconte pas ton dos. J'suis pas ostéopathe, j'ai perdu le nord. J'ai fait tout ce que maman voulait pas que je fasse. Et je m'endors sur une ou deux, trois liasses, sur une ou deux, trois tasses. J'ai le moral au sol, j'ai le karma au sol. Déçu de la vie comme une femme enceinte d'un viol. J'ai le moral au sol, j'ai le karma au sol. Déçu de la vie comme une femme enceinte d'un viol. Prends soin de toi, parce que je n'ai pas su le faire. Je vais me resservir un verre, puis un deuxième. Je ne respectais pas les thèmes, je ne respectais pas les règles. Je voulais pas que tu t'en ailles, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Je voulais pas que tu t'en ailles, maintenant je ne veux pas que tu reviennes. Maintenant je ne veux pas que tu reviennes.
Ce qui nous amène à cette fameuse expression du « prends soin de toi ». Alors déjà, première catégorie miso en lien avec le soin, le concept des femmes qui prennent soin d'elles-mêmes, qui sont soignées. les high maintenance en anglais, à qui on fait bien évidemment très souvent le reproche de se laisser aller quand tel n'est pas le cas.
Le patriarcat raffolant des injonctions contradictoires, on leur reproche aussi le temps passé dans la salle de bain et l'argent qui est dévolu à l'entretien de leur précieuse apparence. Alors à force qu'on le répète, vous l'aurez compris, si l'équivalent cis-hétéro-mec, à savoir l'homme soigné, n'existe pas ou très peu, et uniquement pour des coups de marketing visant à nous faire consommer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est...
Miso comme concept ! Illustration avec notre point variétoche et patrimoine français !
Attention à vos oreilles !
Ça va piquer.
Que t'es drôle à regarder, t'es là, t'attends, tu fais la tête. Et moi j'ai envie de rigoler, c'est l'alcool qui monte en ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir, afin d'y puiser le courage, de t'avouer que j'en ai marre de toi, et de tes commérages, de ton corps qui me laisse sage. Et qui m'enlève tout espoir. J'en ai assez, faut bien que je te le dise. Tu m'exaspères, tu me tyrannises. Je subis ton sale caractère sans oser dire que t'exagères. Oui, t'exagères, tu le sais maintenant. Parfois, je voudrais t'étrangler, Dieu. Que t'as changé en 5 ans. Tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Tu es belle à regarder. Tes bas tombant sur tes chaussures. Et ton vieux peignoir mal fermé. Et tes bigoudis. Quelle allure. Je me demande chaque jour. Comment as-tu fait pour me plaire? Comment ai-je pu te faire la cour? Et t'aliéner ma vie entière. Comme ça, tu ressembles à ta mère, car rien pour inspirer l'amour. Devant mes amis, quelle catastrophe! Tu me contredis, tu m'apostrophes. Avec ton venin et ta hargne, tu ferais battre des montagnes. Ah, j'ai décroché le gros lot le jour où je t'ai rencontré. Si tu te taisais, ce serait trop beau, non? Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es une brute et un tyran. Tu n'as pas de cœur et pas d'âme. Pourtant, je pense bien souvent que malgré tout, tu es ma femme. Si tu voulais faire un effort, tout pourrait reprendre sa place. Pour maigrir, fais un peu de sport. Arrange-toi devant ta glace. Accroche un sourire à ta face. Maquille ton cœur et ton corps. Au lieu de penser que je te déteste, de me fuir comme la peste, essaie de te montrer gentille. Redeviens la petite fille qui m'a donné tant de bonheur. Et parfois, comme par le passé, j'aimerais que tout contre mon cœur, tu te laisses aller, tu te laisses aller.
Le soin d'elles-mêmes revient aux femmes, mais elles ont également à charge le soin des autres, à savoir les 3 pôles jugés domestiques de l'éducation, le soin et l'hygiène.
Pour rappel, dans notre émission sur les femmes et la politique, on avait précisé que ce sont aussi souvent les gouvernements confiés aux femmes.
Quelle surprise! Là-dessus, on ne vous refait pas un dessin. En fait, le care, là, il rejoint la fameuse charge mentale qui est évidemment toujours laissée aux femmes. Donc élever les enfants, se lever la nuit pour les soigner, les bercer, les consoler, prendre un arrêt quand le ou la petite est malade, prendre soin du mari qui travaille et des personnes âgées de l'entourage, autant de rôles qui convoquent immédiatement dans notre inconscient collectif des images de femmes et pas des images d'hommes. Les compétences mises en œuvre dans le soin, les tâches domestiques, la prise en charge d'autrui, sont trop souvent vues comme un prolongement logique de qualités qui seraient naturelles et propres aux femmes parce qu'elles sont maternelles.
Pourtant, ces compétences ne sont pas reconnues comme telles en dehors de l'argument « Mais si, vas-y toi chérie, t'es meilleure que moi, ça, bisous ». Pour preuve, vous ne pouvez pas les lister sur LinkedIn en vous indiquant comme « maternante » ou vous vanter auprès d'un employeur de maîtriser parfaitement l'art du repassage de chemise, les recettes de grand-mère préventives contre les rhumes ou de faire des ourlets.
Imagine l'entretien d'embauche, quelles sont vos qualités? Je suis maternelle.
Sauf si tu es championne de repassage, puisqu'il y a effectivement un concours mondial.
C'est compétitif.
Tout à fait, voilà.
Alors ces savoir-faire dont sont dénués finalement beaucoup d'humains, parce qu'ils n'ont pas eu à les apprendre quand des femmes de leur entourage s'en chargeaient, ne sont pas considérées comme des aptitudes socialement valorisables. Par extension, tous les métiers qui mettent en œuvre ce genre de compétences n'obtiennent aucune reconnaissance, ni sociale ni financière, et sont totalement invisibilisés. Alors cette fameuse crise sanitaire dont on a entendu parler, que nous traversons encore actuellement, a permis d'en faire parler puisque ce sont les métiers essentiels qui ont continué à faire tourner la baraque, tandis que la plupart des individus restaient confinés.
Et oui, les éboueurs et éboueuses, les caissiers et caissières, les soignants et soignantes, les personnels en charge de l'hygiène de nos espaces partagés, toutes ces personnes sont autant de gens qui ont continué à sortir, à aller travailler en prenant des risques. Pourtant, cette visibilité médiatique temporaire... Bravo, il est 20h. N'a eu aucun effet tangible puisque la revalorisation du SMIC et de leur salaire a échoué. Oh, comme c'est étonnant. La majorité à l'Assemblée nationale continue de rejeter régulièrement les revalorisations des petits salaires, y compris dans un moment de crise financière.
Elle était infirmière dans un hôpital blanc. Moi j'avais un ulcère qui nageait dans le vin blanc. Elle arrivait de Toulouse, moi j'étais de Saint-Mandé. Y'avait rien sous sa blouse et ça me faisait de l'effet. Elle me dit que venez-vous faire en ces lieux de misère. Y'a plus de lit, plus de médoc, plus assez d'infirmières. Y'a même dans un hamac le ministre de la Santé. Y'a une belle crise cardiaque, c'est bien fait pour ses pieds. La petite infirmière, quand elle raconte ça, elle crie, vocifère, ça lui coupe les bras.
Alors la corrélation entre le care et le féminin est visible dans le fait que les noms de métiers du care sont essentiellement déclinés au
féminin.
Étonnant.
Comme on a entendu il y a quelques années, les gens râlaient sur la féminisation de certains métiers comme prof. Petite anecdote perso, j'ai une collègue qui m'a même dit que ça la choquait qu'il y ait autant de meufs dans le métier au début où moi j'ai commencé il y a 300 ans. Et elle essayait de décourager sa propre fille de devenir prof à son tour parce qu'il y avait assez de bonnes femmes comme ça. Le découragement.
Alors étonnamment, ça ne dérange personne qu'on parle de caissière, femme de ménage, aide-soignante et infirmière, au féminin de majorité. Presque le seul cas d'ailleurs où on y a recours. Pourquoi ça ne dérange pas qu'il y ait féminisation de ces métiers-là, alors que ça choque qu'il y ait féminisation des professions considérées comme supérieures? On utilise ici le terme à escient, puisqu'en France, on parle bel et bien de cadre sup et de supérieur hiérarchique, implicitant qu'il y a donc des inférieurs.
Alors pour rappel de chiffres bien badants sur les écarts de salaire, on pourrait prendre ceux d'Amazon parce que finalement les salaires des travailleurs de cet antre de l'enfer, à savoir 15 dollars de l'heure, sont légèrement au-dessus du SMIC et du salaire donc des éboueurs, aides-soignantes et personnels d'entretien. Alors à condition de ne jamais dépenser d'argent, il faudrait 21 000 ans à un employé des entrepôts d'Amazon pour amasser 1 billion de dollars. Pour en arriver donc aux 130 billions que possède actuellement Jeff Bezos, il faudrait que cet employé travaille 2,8 millions d'années sans rien dépenser. Une énorme carrière.
Autrement mis en perspective, il faudrait 8 semaines, soit 293 heures à cet employé pour gagner ce que Bezos se fait en une seconde. 2 mois de votre temps de travail égale une seconde de la vie de cette ordure. Pour le tourner encore différemment, En combien de temps Bezos gagne-t-il le salaire annuel, le salaire d'une année entière d'un employé payé à 15 dollars de l'heure?
Eh bien, 11,5 secondes, meuf. C'est-à-dire qu'il lui faut moins de 12 secondes pour se faire ce que les gens se font en 12 mois. Alors, on essaye là de résumer parce que c'est complètement abstrait pour nous, mais ça rentre pas dans notre cerveau tellement ces écarts sont énormes. Donc, pour résumer, les métiers du Caire sont invisibilisés. Ils sont moins bien payés que des gens comme ces trous de cul de Bezos, dévalorisés, exercés principalement par des femmes. Alors qu'ils sont pourtant nécessaires, ils sont vitaux, ils sont indispensables, mais ils sont tellement invisibles que les politiques peuvent, dans l'indifférence générale, leur refuser des revalorisations légitimes de salaire.
Mais vous en faites pas, vos applaudissements du confinement continuent à financer leurs courses.
Sur ces hanches, il y a une phrase écrite, pas dépasser la dose prescrite. Je lui fais le coup du grand malade, je lui fais le coup du chanteur de blues. Elle me dit ça marche pas, vos salades. M'en faut plus pour que j'enlève ma blouse. Je lui demande ce qu'elle porte en dessous et elle me répond rien du tout. Oh, elle me fera mourir, elle me fera mourir, elle me fera mourir l'infirmière. Elle me fera mourir, elle me fera mourir, elle me fera mourir l'infirmière.
Alors on leur offre certes pas le piédestal qui sont réservés aux bullshit jobs des startups prêtes à vous repimper la mozzarella ou vous vendre de l'air pur dans des éco-cups. Voyons où seront les Jeff Bezos, voyons où seront les patrons du CAC 40 et les innovative creators quand vous aurez 90 piges et qu'il faudra vous torcher le huc.
Et sans plus attendre, dans notre interview militante du jour, on écoute le collectif féministe révolutionnaire nous parler de ses luttes sur le sujet.
The only way we are going to get out of this situation is by choosing to be courageous.
Je suis avec les militantes du collectif féministe révolutionnaire. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter votre collectif ?
Le collectif révolutionnaire, il est né en 2019 suite à une expérience collective d'organisation d'une marche nocturne qui a eu lieu le 8 mars. Et puis suite à ça, ont émergé un peu des envies en fait de s'organiser autour des questions féministes, mais du coup sur une base politique commune. Et donc il y a eu des temps de réflexion, de lecture collective, d'arpentage qui ont été mises en place et du coup pour asseoir cette base politique-là. Et donc ça s'est illustré au travers d'un manifeste qui est donc sur notre site internet. Et du coup, la base politique de FemRev, c'est un féministe révolutionnaire qui vise en fait les structures de domination, à savoir le capitalisme en premier lieu, le racisme, le validisme. Et c'est un féminisme qui est aussi en lien avec les luttes et les combats des personnes LGBT. Donc en fait, c'est un espace qui a vocation à être ouvert à toutes les personnes qui subissent le patriarcat et qui veulent du coup s'organiser pour lutter contre. Ça, c'est à notre échelle de Nantes. Et puis, on fait aussi partie d'une coordination qui est plus grosse, enfin qui est plus grosse, qui est nationale en fait, et qui s'appelle la Coordination Nationale Féministe, qui a émergé en 2020 et qui rassemble une soixantaine de collectifs et dont une des stratégies, c'est la grève féministe. Donc, il y a tout un tas d'organisations, d'assemblées, de rencontres qui permettent d'aller vers ça du coup.
Vous, comment vous définissez ce qu'est le concept du CARE ?
Le CARE, en fait, nous, on le pense en fait à deux niveaux, à la fois dans la sphère personnelle, du coup, donc ce qui concerne le travail reproductif, puisque pendant longtemps, les femmes, elles ont été assignées à certains rôles, certaines tâches de tout ce qui concernait l'éducation, le soin des enfants, le soin aux autres, en fait, de manière générale. Donc ça, c'est un peu le fruit d'une histoire qui a assigné en fait les hommes et les femmes à des rôles très spécifiques. Et c'est aussi un travail qui était souvent très invisible, qui n'était même pas nommé en fait, aussi qui était invisible donc gratuit, et qui n'était pas reconnu. Voilà. C'était par contre un travail qui permettait aux hommes d'aller travailler, d'être dans la sphère professionnelle, donc d'occuper un travail salarié, et du coup d'alimenter aussi la machine capitaliste par le même temps. Donc ça, c'est plutôt le CARE du côté sphère personnelle. Et puis le CARE du côté sphère professionnelle, c'est qu'une fois que les femmes sont rentrées sur le marché du travail, elles ont plutôt occupé des postes dans des secteurs très féminisés et qui justement reprenaient un peu ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir les filières éducatives, le social, le médico-social, etc. Et qui dans le même temps, en fait, sont des filières qui sont très dévalorisées à la fois en termes de reconnaissance sociale, mais aussi financière. Pourquoi ? Eh bien parce que il y a un peu cette idée que ce sont des secteurs, des métiers qui ne nécessitent pas de compétences professionnelles particulières, parce que en fait, comme ce sont des filières féminisées, ce seraient des filières qui nécessiteraient plutôt des qualités dites un peu innées ou naturelles que les femmes auraient un peu de manière magique comme ça, et que donc ben elles sont pas particulièrement valorisées aussi de ce fait-là. Du coup, ça a des conséquences sur, bah, évidemment, les salaires, sur la précarité de l'emploi, sur les temps partiels qu'occupent les femmes majoritairement, etc.
Dans vos membres, vous comptez pas mal de caristes, d'aides-soignantes, d'infirmières, d'enseignantes, de personnel d'entretien. Mais c'est aussi être dans le care que de militer, de donner de son temps. Comment vous vivez votre engagement militant au jour le jour ?
L'idée, c'est pas forcément de réinvestir nos aptitudes au care du quotidien dans un collectif. C'est plutôt de construire un espace politique qui remette en question tous ces rapports de domination systémique. Donc l'idée, c'est déjà de voir comment on peut les remettre en question au sein du collectif, mais surtout ensuite de voir comment on peut diffuser l'idée révolutionnaire de remettre en question ces rapports de domination à l'échelle de la société. Mais forcément, dans un collectif, on est issu de trajectoires et d'histoires différentes, donc on reproduit aussi des rapports de domination. Ça peut être le fait de se sentir plus légitime à prendre la parole parce que trajectoire scolaire, ça peut être plein de situations différentes. Donc c'est quand même d'être consciente de ça et de se doter des outils pour faire bouger les choses, que tout le monde puisse prendre la parole, que les personnes qui soient concernées par des luttes spécifiques soient écoutées, qu'on puisse prendre d'abord en compte leur analyse sur ces sujets par exemple.
Et puis aussi pour les personnes effectivement qui portent déjà la charge du travail de care, hein, dans les sphères familiales ou au travail, c'est sûr qu'on est consciente que militer ça représente une tâche supplémentaire, parce que là on est un collectif féministe mais on fait aussi parfois partie d'autres structures dans lesquelles on va reproduire par exemple des réunions en non-mixité parce qu'il y aura besoin, etc. Et du coup là, l'idée dans notre collectif, c'est de se dire que oui, c'est sans doute une tâche supplémentaire, mais en même temps qu'elle est collectivisée et que ce militantisme là c'est aussi l'occasion de se donner de la force ensemble pour reprendre la main sur des compétences, sur des activités et aussi sur les problématiques qu'on peut rencontrer sur nos lieux de travail par exemple ou dans notre vie. Et on le voit plus comme un moyen de pouvoir lutter mieux ensemble et d'avoir cet outil-là en fait pour nous organiser mieux en fait.
Vous avez mené des actions qui ont un rapport justement avec cette question des métiers du care. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour les grévistes de l'Ibis Batignolles que vous avez souhaité soutenir en 2019 ?
Alors les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, ça a été un peu la première action de soutien de FemRêve qu'on a poursuivi en fait un peu tout au long de leur grève qui a duré vraiment très très longtemps. Et pour nous, c'était une grève et une mobilisation qui étaient emblématiques de tout ce qu'on dénonçait, à savoir la précarité dans un secteur qui emploie davantage de femmes et en particulier des femmes racisées. Et en fait, elles se sont mises en grève au départ parce qu'elles étaient embauchées par une société de sous-traitance, la SNT, qui les faisait travailler dans des conditions de salaire et de travail abominables. Et donc, ce qui nous a un peu interpellés, c'est que les revendications qu'elles avaient, ça paraissait en fait des revendications de simple bon sens. En fait, elles demandaient à être embauchées par l'hôtel pour travailler à égalité avec les salariés de l'hôtel. Et puis, elles demandaient, entre autres, une prime panier de 2 euros pour pouvoir manger en fait, le midi un peu décemment. Ce qui paraissait en fait rien du tout, et en fait même ça elles n'arrivaient pas à l'obtenir et on leur refusait. Donc une grève plus que légitime et en même temps sur des revendications qui ne nous paraissaient pas inaccessibles. Et à l'occasion de cette grève, c'est des salariés aussi qui ont appris qu'une femme de chambre avait été violée par l'ancien directeur de l'hôtel, ce que le groupe Accor a cherché à étouffer. Donc pour nous, c'était emblématique de la manière dont le capitalisme patriarcal exploite, opprime les femmes, les minorités, les personnes racisées. Et c'était important pour nous de les soutenir. Alors à notre petit niveau, l'idée, ça a d'abord été de visibiliser la grève, de la médiatiser. Et je pense que là-dessus, tous les collectifs qui ont fait ça ont quand même réussi leur pari, parce que c'est une grève qui est très connue aujourd'hui. Et puis ça a été aussi humblement de récolter de l'argent pour leur caisse de grève, avec l'idée que leur victoire aujourd'hui, elles peuvent en être fières, ça c'est sûr, et que c'est quand même une victoire symbolique pour toutes les personnes qui luttent pour des conditions de travail dignes.
Vous avez également apporté votre soutien au personnel de la clinique du Parc. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle était la situation et les revendications des grévistes et pourquoi vous avez souhaité les soutenir ?
La clinique du Parc, c'est une clinique psychiatrique qui est à Nantes, qui appartient au groupe Ramsay. Et là, les personnels se sont mis en grève, alors sur des revendications assez précises, le non-remplacement des collègues en arrêt, les sous-effectifs, les salariés multifonctions, l'absence de formation et surtout des salaires extrêmement bas avec 1130 euros mensuels pour une aide-soignante avec 5 ans d'ancienneté et un week-end de garde par mois, 1500 euros pareil pour une infirmière avec 15 ans d'ancienneté et aussi des week-ends de garde, sachant que ce groupe Ramsay faisait à ce moment-là 52% d'augmentation de son chiffre d'affaires sur l'année. Nous, ça nous a semblé assez évident de venir soutenir ce collectif parce que c'était visible. Elles ont organisé des piquets de grève directement devant la clinique sur le boulevard. C'est un collectif de travail où il n'y avait pas de syndicat à ce moment-là, où les représentants du personnel ont plutôt pris le parti de l'employeur dès qu'il y a eu des débuts de négociations. Et donc, nous, quand on les a rencontrés, ça a été d'abord d'amener un petit soutien matériel comme on pouvait, d'amener du café, de proposer un mégaphone s'il y avait besoin de prendre des prises de parole ou ce genre de choses. Et puis ensuite, c'est une lutte qui a pris de l'ampleur et qui était vraiment intéressante parce que, comme pour les femmes de chambre, c'est vraiment un collectif de travail donc de soignantes, quasiment presque à 100% féminisées. Et donc, ils n'avaient pas du tout d'appui, que ce soit syndical ou d'expérience militante avant. La CGT s'est mise sur le coup au fur et à mesure et les a outillées pour avancer dans les négociations parce qu'il y avait quand même des gros enjeux et elles ont été convoquées au siège de Ramsay, etc. Donc pour des personnes qui n'avaient jamais eu cette expérience, c'était quand même une grosse mise à l'épreuve, en fait, enfin, des choses qu'elles n'avaient pas forcément déjà fait. Voilà, nous, on n'a rien à voir dans la victoire parce qu'elles ont réussi à obtenir quand même des augmentations et puis elles ont continué ensuite dans le fait de réclamer la prime Ségur. Mais pour soutenir, ça nous semblait, c'est ça, important de diffuser quand même cette lutte, d'en parler au maximum. On a fait un fanzine dans lequel on a aussi diffusé des entretiens des infirmières parce que pour nous, c'est des paroles qui sont très précieuses parce que c'est vraiment un des leviers pour renverser le patriarcat, c'est que les femmes qui sont au travail s'organisent, fassent remonter quelles sont leurs conditions de travail et les remettent en question. Et ça aboutit aussi à une soirée qu'on a fait avec du personnel, des femmes de chambre et des soignantes de cette clinique du Parc qui ont pu raconter leur lutte. Et voilà, c'est vraiment important que ces paroles-là elles puissent être portées parce que ça donne un peu des espoirs que dans des secteurs où on pense que rien ne peut se passer, que les employeurs ont le champ libre pour faire tout ce qu'ils veulent, en fait, ben, à un moment, ça va trop loin et en fait, elles gagnent.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses hyper passionnantes. Si jamais on a envie de vous rejoindre, comment c'est possible de vous connaître ?
Ben, on a un site internet et on a des réseaux sociaux, et notamment Facebook et Instagram, des pages qui s'appellent Féministes Révolutionnaires Nantes et Femmes Rêves Nantes sur Insta. Et on répond très volontiers aux mails et on fait des réunions à peu près tous les 10 jours qui sont ouvertes à qui a envie de venir discuter avec nous.
Et ben, merci beaucoup à toutes les trois.
Quand ça va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse et on gueule.
Une goutte d'eau dans l'océan, dans le pédiluve, dans la mare aux connards, une goutte d'eau, ça n'a l'air de rien. Sauf qu'au final, à force, ça donne mal au bide. C'est bien de s'hydrater, hein, on va pas dire le contraire en plein réchauffement climatique, mais toutes ces gouttes d'eau oppressives de culture patriarcale, on en a littéralement ras-le-bol.
Dans cette rubrique de Charbons Ardents, on déconstruit un exemple oppressif de notre cher bouillon de culture.
Alors une fois n'est pas de coutume, on va utiliser notre mythe du jour comme exemple de modèle oppressif, parce qu'à travers lui, on vous propose d'étudier les caractéristiques d'un fameux modèle, celui de la femme sacrifiée, de la mère sacrificielle, de la meuf qui renonce et tutti quanti.
Ma che si, je parle l'italien. Comme notre mythe du jour le prouve, beaucoup des histoires qu'on nous raconte offrent ce modèle de la femme au service de l'homme qui se sacrifie d'une manière ou d'une autre. Soit en mourant, soit en mettant de côté ses intérêts, sa carrière, ses envies, ses besoins. Le tout en recourant à des compétences considérées comme subalternes et proprement féminines, soins, éducation, hygiène à nouveau, qui vont permettre aux héros de réussir sans pour autant qu'elles soient créditées ou glorifiées pour ça.
Est-ce que non ? En gros, ce qui compte, c'est le coup d'épée qui trucide. C'est pas comment le héros a été éduqué, c'est pas comment l'armée est nourrie, c'est pas comment les infirmières sauvent les soldats en coulisses après chaque bataille. Tout le monde s'en branle de ça. C'est l'histoire des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine qui compte, qui est racontée, et pas l'art et la manière de faire pousser le maïs, on s'en branle, de maintenir les gosses en vie, quel ennui, etc., etc. On préfère la chasse à l'agriculture, on préfère la guerre à la culture.
D'où une histoire narrative dont les récits transmis mettent en scène les femmes uniquement dans ces rôles de personnages de transition ou héroïnes qui s'illustrent par leur sacrifice. Si elles ne le font pas, on les considère comme égoïstes, se mettant en travers du chemin du héros ou de l'homme carriériste vers son chef-d'œuvre ultime, lui-même.
C'est véritablement une catégorie, hein, ce truc de personnage de transition. Personnage de transition dans l'histoire d'un héros qui évolue vers son achèvement, son accomplissement ultime. Donc pendant des siècles, le suicide est le seul fait d'armes que peuvent revendiquer les héroïnes pour s'illustrer et faire parler d'elles. Ce modèle de la femme sacrificielle devient encore plus intense quand il s'agit de se sacrifier pour son enfant. La mère sacrificielle, cette sainte, quel dit apaisant, toute future ou actuelle mère a déjà entendu ou lu que les besoins de l'enfant passaient avant tout. Et les modèles culturels sur la question sont nombreux. Il n'y a qu'à voir dans les séries médicales qui adorent créer des dilemmes à la mort moelle clite, les cas où il faut décider de qui vivra entre la femme ou son fœtus. Eh bien, la mère, elle veut toujours se sacrifier. On n'envisage pas une seule seconde de nous montrer un modèle de femme qui dirait que son bien-être passe avant celui de son enfant. Parce qu'une maman bien, qui est entourée de care, a plus de fortes chances de bien s'occuper de son lardon.
Et c'est d'ailleurs bien tout le problème de Roe versus Wade dans la façon dont il a été aboli, puisque maintenant, on ne peut plus avorter pour des raisons médicales qui mettent la vie de la mère en danger tant que le fœtus a un cœur qui bat. Voilà. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love.
Damanzo, I know that you know. Damanzo, I know that you love.
Notre mythe du jour illustre la théorie du care et son lien avec la construction des genres. En effet, ce qu'on note, c'est qu'à l'âge adulte, après la séparation nécessaire de l'adolescence, on encourage les hommes à concentrer leurs efforts sur le développement du moi et du travail, là où les femmes sont accusées d'égoïsme si elles font de même.
Les bébés. De là, le fameux modèle du mec qui a des intimacy issues. Il a des problèmes à s'engager, ce mec. Là où les femmes sont encouragées, elles, à développer à fond les relationnels qui sont considérés comme familiaux. Relations amoureuses, enfants, parents, et pas les relations amicales d'ailleurs, hein, parce que les meufs, si on les laisse toutes seules dans une pièce, qu'est-ce qu'elles font? Elles se disputent, elles s'arrachent les cheveux. Dans les histoires qui contribuent à façonner ces dynamiques, les mecs, ils ont généralement un mentor et ils ont des femmes spéciales. Ces femmes spéciales qui ne sont que des personnages de transition dans leur route vers la gloire.
Amour, gloire et beauté. Ah non, mais je suis à fond là, c'est bon.
Franchement, cette chanson-là. Et c'est qui part aujourd'hui avec Aîné, un trou de cul de plus dans le panthéon des trous de cul.
Oui.
Mais
dis-moi, toi. Pourquoi t'as fait ça? Va te laver, va te maquiller.
T'es moche.
Pour commencer, qui est Aîné? Je vais pas vous mentir, on s'en fout. Disons qu'il est du côté des Troyens dans la guerre de Troie et qu'il est réputé pour être un des plus forts. Trou de cul. Et là déjà, ça me chiffonne un brin qu'il ait droit à une telle réputation, en réalité totalement usurpée.
Et pourquoi donc que ça te chiffonne, ma bonne?
Eh bien, je vais te le dire, parce que ce gars est régulièrement sauvé par sa rhum, qui n'est autre qu'Aphrodite. Alors quand c'est pas elle, ce sont d'autres dieux qui doivent des services à Aphrodite. Aphrodite finit même par être blessée à force de sauver la mise de ce trou de cul. Alors perso, le modèle du grand héros sauvé in extremis par sa maman, je trouve pas ça très épique. Hein. Ajoutons que d'autres, bien moins lotis, en niveau ascendance, se contentent de mourir atrocement les tripes à l'air et autres joyeusetés sur le champ de bataille. Les papas de la guerre de Troie se mouillent beaucoup moins le maillot pour aller retirer leur rejeton de la bagarre.
Deuxième coup d'éclat d'Aîné, qui est un fameux miso, et oui, c'est qu'il abandonne sa femme, dont il a un fils, quand il s'enfuit de Troie en flammes. Il embarque son père, son fils et ses valises, mais il laisse derrière lui Créuse, son épouse. Certaines versions la font disparaître tout simplement, sans se donner la peine d'expliquer pourquoi. Après tout, c'est juste une bonne femme. Dans d'autres, ce sont les dieux qui demandent explicitement à Aîné de la tège. Il aura besoin d'être célib pour la suite de son destin, et là, le cum, est-ce qu'il hésite?
Non.
Eh ben non, Bye Créus, bye bye, et place à la suite. Elle va même, dans certains textes, par accepter volontairement ce sacrifice pour la bonne cause.
Femme sacrificielle. La suite, c'est encore une autre meuf, comme on aurait eu besoin d'en voir plus dans l'histoire des meufs. Elle s'appelle Didon. Elle en a vu des vertes et des pas mûres. Son frère a assassiné son mari avant d'essayer de faire la même chose avec elle. Elle s'enfuit en catastrophe sur un navire avec une bonne partie de son peuple qu'il aime bien. Ça montre déjà son niveau de dirigeance politique.
Ah bah dis donc, clairement on peut pas en dire autant. Je m'embarque pas sur un bateau avec le gouvernement moi.
Réfugiée sur les côtes de l'actuelle Libye, Didon se retrouve face aux tribus du coin et à leur chef qui exige qu'elle se marie avec l'un d'entre eux. Alors elle est pas chaude, hein. Déjà parce qu'elle a juré fidélité à feu son ex, et puis parce que fuck les mecs en fait à la fin. Du coup, ni une ni deux, les autochtones lui disent que si elle veut par deux, elle aura juste un seul petit bout de terre, l'équivalent de ce que pourrait couvrir une peau de bœuf. Bon, c'est vraiment des notions d'une autre époque. Alors, pas évident de construire une ville pour accueillir tout un peuple sur une peau de bœuf. Eux, ça les fait bien rigoler entre eux, hein, on les imagine d'ici.
Ceci est un extrait d'une vidéo de 5 heures. Si vous avez du temps à tuer les gens, il y a des causes qui nécessitent des bénévoles. Hein. Que fait Didon alors ?
Eh bien, Didon, elle réfléchit.
What the fuck ? Une femme qui réfléchit, on aura tout vu.
Et oui. Et en plus, au bout d'une nuit à réfléchir et à se prendre le chou, elle trouve une solution pour accueillir tout le monde. Comme quoi, il y a de la place pour loger tous les gens. Hein, quand les riches ne monopolisent pas pour leur résidence secondaire et tertiaire de plusieurs milliers de mètres carrés.
Nous sachons, il y avait de la place pour deux sur cette planche, hein, Rose. Meuf, tu t'égares, on n'est pas encore à l'époque des jets privés des 1%.
Respire.
Elle fait quoi donc, notre Didon ?
Elle découpe en fines lanières la peau de bœuf, et en attachant toutes les lanières entre elles, elle délimite un espace correct pour y construire une ville qui se construira en hauteur. Alors cette ville, ce sera Carthage, patrie du futur Hannibal et de ses armées d'éléphants, seule cité à avoir fait trembler Rome.
Ah ouais, quand même ! Dommage pour elle, aînée sur le point de débarquer. Une tempête le fait atterrir dans ce tout nouveau royaume et comme Aphrodite est toujours là pour s'occuper de son rejeton, elle s'arrange pour que Didon tombe amoureuse de lui et soit obligée de l'accueillir. Oh là là.
Nice.
Le mec prend ses aises, s'installe, baise avec elle et puis au bout d'un moment, bah même refrain. Au fait meuf, merci pour l'accueil mais j'ai un destin à accomplir, hein, alors bye. Didon est deg.
Bye. Bah ouais elle est deg, elle s'est occupée de lui. Elle a laissé ses occupations politiques et sociales de côté au nom de l'amour. Elle a l'impression d'avoir bafoué le souvenir de son ex. Oui, bon, elle est toujours un peu obsédée. Mais elle se met de côté, tu comprends. Ça fait partie du care de s'oublier au profit des intérêts du mec. Alors Aînée se casse et comme Didon, elle fait toujours les choses en grand. Elle monte le lit dans lequel ils ont fait crac-crac sur la plus haute tour. Elle y entasse toutes les affaires qui lui rappellent Aînée. Elle fout le feu.
Ouais !
Non, te réjouis pas trop vite. Elle prend l'épée d'Aînée. Elle se l'enfonce dans le ventre et elle se jette dans la fournaise.
Oh merde.
Eh oui, au loin, le bateau d'Aînée continue son petit bonhomme de chemin.
Ah oui, c'est extrême. Autant sur le feu, j'étais pour, mais non. Côté seppuku, moins.
Non.
Alors, la suite des aventures d'Aînée est encore jalonnée de meufs qui font le taf à sa place, hein, je vois pas d'autre manière de le dire. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est un bon gros bastringue, mais quand il arrive en Italie, il obtient d'un chef de clan qui lui refile sa fille, Lavinia, contribuant aussi à sa domination politique. À ça, tu peux ajouter que Anne ou Anna, la sœur de Didon, vient se réfugier chez eux. Et comme ça, ça rend Lavinia jalouse et ça met un peu le boxon. Et bah, elle se suicide pour la paix des ménages.
Voilà, ça c'est un mythe vraiment typique sur les femmes sacrificielles et les mères sacrificielles. Un mythe qui rappelle bien que derrière tout grand homme, un concept qui n'existe pas, il y a une sacrée batterie de femmes. Mères, femmes, amantes, belles-sœurs, qui font tout le boulot et se salissent les mains. Le mec n'aura rien conquis par lui-même. Et il est quand même dans le top 10 des héros fondateurs de notre si belle culture occidentale.
Restez tout de même à établir le contact, ce qui est impossible à faire en réalité. On nous le fait croire dans les films, mais c'est une vaste arnaque. Ça m'est retombé dessus d'un coup, je me suis senti seul, triste et fatigué. J'y arrive pas sans toi, j'arrive plus à encaisser. Comment est-ce que ça va se finir? Comment est-ce que je vais faire? J'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Que tu répares ma tête et mes sentiments qui fonctionnent plus bien. Que tu refasses mes stocks de sérotonine. Que tu me dises que c'est rien. J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant. Mais je me force à croire qu'avec du temps, tu changes d'avis. Et dans la nuit, je rêve encore que tu m'emmènes danser jusqu'au matin.
Cette histoire peut vous en rappeler bien d'autres. C'est étonnant. Une des plus choquantes, on l'a déjà évoquée, c'est celle de La Petite Sirène, dans sa version originale, où la meuf se suicide quand même pour permettre au prince d'épouser au KLM une princesse qu'il préfère à elle. Ben oui. Voilà.
All art is political. The artistic choice to have a voice is the most political act of all.
Alors, après tous ces tombereaux de merde, pour finir sur une note positive, des suggestions de séries, livres et films qui vont vous donner du care. Parce que vous le méritez, les petits poteaux.
Vous le méritez tellement. On commence par un bouquin qui vient justement dire « fuck » au mythe d'aîné. Dans son roman « L'Instant », sous-titré « La Créuside » et paru en 2009, l'autrice hongroise Magda Szabó réinvente l'Énéide de Virgile avec un big, big twist. En fait, elle s'imagine que Créuse a buté aîné, génial, et qu'elle a pris sa place pour vivre ses aventures avec l'aide de déesses et dieux qui ont été inventés pour l'occasion. Alors s'ensuivent des aventures et des histoires d'amour d'un seul coup beaucoup plus intéressantes, parce que la culture, ça bouge, ça vit, ça change et en contexte.
Trop bien, hein. En BD, on vous recommande La Dame Blanche de Quentin Zution aux éditions Le Lombard, paru en 2022. On y suit Estelle dans son travail auprès des résidents d'une maison de retraite. Le dessin est superbe, l'histoire aussi. On y voit les difficultés de ce métier, ce que c'est que d'accompagner au quotidien des gens qui vieillissent, qui meurent, qui attendent des visiteurs qui ne viennent pas, qui sont perdus dans leur propre mémoire, et aussi de les accompagner dans leurs derniers instants et de devoir vivre avec ça ensuite. C'est plein de sensibilité pour visibiliser un métier magnifique. Bravo à Zution d'offrir ce coup de projecteur sur une profession nécessaire.
J'ai tellement pleuré sur cette BD.
J'ai eu un accident de voiture. Je vivais avec ma fille de 2 ans dans cette voiture. J'ai pas pu lui acheter à manger ni mettre un toit sur sa tête. J'ai eu aucun moyen de lui offrir autre chose que le quai du ferry pour dormir. J'aurais jamais dû partir. Je peux pas perdre ma vie.
Essayez cette piste.
Value mate.
Ça vaut le coup d'essayer. Ça te pose un problème?
Non.
On paye 12 dollars, pas d'exception. Qui veut dire quelque chose?
Je vais vous faire une confession. Faire le ménage chez les gens, ça veut dire que je passe des heures à astiquer des buffets dont le prix me permettrait d'aller à la fac. Salut maman!
Alex!
Tu peux garder ma dip pendant 1 heure.
Je te rappelle que moi aussi j'ai une vie. Je peux pas jouer à la nounou toute la journée, j'ai beaucoup de travail.
Pourtant, après les courses, l'essence et le montant de la garderie à ma charge, il me reste exactement 9 dollars chaque semaine. C'est le prix d'une boîte de tampons. Expliquez-moi comment je suis censée payer un loyer. Même si elles ont beaucoup d'argent et vivent dans des maisons de rêve, peut-être que ces couloirs interminables et ces placards qui font la taille de mon appartement ne sont que des endroits où se cacher. Peut-être que toutes ces vitres, ces miroirs ne sont là que pour vous renvoyer à votre propre solitude. On finit par s'y perdre.
En série, la très récente Maid est notre reco du jour. Basée sur l'autobiographie de Stephanie Land, donc une vraie histoire, la série est magistralement portée par Margaret Qualley et Andy McDowell. Elle met en avant le dessous du métier de personnel d'entretien, plus communément appelé femme de ménage. On y voit d'abord la précarisation du personnage de cette jeune mère qui veut échapper à un conjoint brutal. Alors la problématique de la maltraitance conjugale par laquelle elle ne se sent pas concernée au départ est très habilement abordée. Et c'est nécessaire. Parce qu'en fait, beaucoup de femmes pensent que ce qu'elles subissent n'est pas si grave, surtout dans les cas où il n'y a pas de coups, où il n'y a pas de traces. Eh ben si, en fait c'est grave. Son quotidien pour obtenir la garde de sa fille et lui assurer une subsistance est prenant, ça peut être trigger, mais dans l'ensemble, ça offre un regard et une mise en valeur des métiers de caris qui est absolument vital. À voir, à revoir, à conseiller pour changer nos regards sur celles et ceux qui nous entourent dans l'ombre et font de notre société un lieu viable.
Et si vous n'en avez pas eu assez, une autre série plus ancienne mais toujours d'actualité, allez jeter un petit coup d'œil à Nurse Jackie, l'histoire d'une infirmière et aussi une maman qui s'est retrouvée addict aux antidouleurs. Ça vous rappelle quelqu'un ? Bah oui, c'est un peu l'équivalent féminin de Dr House, sauf qu'on notera que quand l'un est médecin, l'autre est bien évidemment infirmière. Bah oui, et c'est très souvent le cas dans les séries médicales. Nurse Jackie est un personnage magistralement interprété par Eddie Falco. Ça vaut le détour, même si les réalités décrites sont brutales et sans concession.
«
closer. Let me sit on top of your knee. Go ahead and take care of business for me, for me, for me. Go on, take care of business for me. Yeah, yeah, go on.
Pour terminer sur une note joyeuse, j'ai eu la chance d'assister la semaine dernière, oui, je vous raconte ma life, à un drag king show au merveilleux bar nantais La Plaisir. Moment de se rappeler qu'on a la chance de vivre dans une ville aux multiples lieux hyper cool. Le spectacle était assuré par des marchands de sable. Les marchands de sable, c'est une association d'artistes qui mettent leurs talents au service du Caire en allant bénévolement jouer avec des enfants hospitalisés et leur raconter des histoires. À partir de cette expérience, Steven et Poussin, King Calin, se sont dit que les adultes aussi avaient bien droit qu'on prenne soin d'eux, qu'on leur raconte des histoires qui font rire, qui font un peu pleurer aussi, et qui apaisent les corps et les esprits. Alors le spectacle qui s'intitule « Maintenant il faut dormir », il est onirique, il est magique, il est touchant et plein de poésie. Il s'ouvre par le constat que les gens dorment de moins en moins et de moins en moins bien, qu'ils sont de plus en plus mal dans leur peau, et que Steven et Poussin sont là pour nous aider. On vous balancera des peluches toutes douces à la figure. Vous assisterez à des grands moments de lip-sync en pyjama avec du dentifrice. Et on vous racontera des beaux contes qui donnent envie de rêver. Rêvez à ce que ce duo merveilleux revienne bientôt à Nantes. Guettez leur passage, guettez le passage de ces nouveaux marchands de sable caristes.
Ça donne grave envie et je suis trop dégoûtée d'avoir raté ça.
Juste à côté de chez toi, meuf.
Je pense que j'étais en train de dormir. Pour une fois. Chers bons ardents, c'est finito pour aujourd'hui et ça faisait plaisir de reprendre. Le mois prochain, on parlera avec vous de la virilité toxique, un vaste chantier sur lequel il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire, beaucoup à dénoncer, beaucoup à changer. Parce qu'elle ne fait que des victimes chez les sœurs, chez les Adelphes et chez les frères eux-mêmes.
Si vous souhaitez témoigner sur ce sujet douloureux, sur les diktats qui vous ont construit et dont vous rêveriez de pouvoir vous débarrasser, ou sur un autre sujet d'ailleurs de la saison à venir, retrouvez toutes les infos sur notre page Instagram et sur le site de prune.net.
Si vous souhaitez témoigner, partager vos suggestions de films, de séries, de livres ou poursuivre la discussion, écrivez-nous sur Instagram @charbonardent ou sur notre formulaire de contact via le site de Prune. Et pour rester sur des charbons ardents, retrouvez le podcast de l'émission sur prune.net, Spotify et Deezer.